Bonjour tout le monde, bienvenue à la French Connection numéro 7. Aujourd'hui, avec moi, Patrick, j'ai Nicolas. Salut Nick.
Hey, salut!
Et Steven. Salut Steven.
Hello!
Nos autres amis sont occupés. Certains en Europe sont dans des concerts, donc bonne soirée à vous, messieurs. Donc, pour ce mois-ci, mois de juin, plusieurs choses intéressantes. Plusieurs leaks, plusieurs follow-up de leaks, quelques petites news locales un peu drôles et un mini-segment apprentissage avec Steven. Donc, pour débuter, on a le dernier leak de cette semaine de WikiLeaks, désolé, qui a leaké, dans le fond, les tools de la CIA pour hacker les routeurs. Ils ont développé, en fait, un framework de hacking de routeurs, donc un genre de Metasploit pour rentrer dans des routeurs, mais de tous les niveaux, pas juste des méga gros routeurs, mais ceux-là aussi qu'on va retrouver dans certaines maisons. Donc, pour hacker techniquement des individus de haut niveau qui auraient du Wi-Fi chez eux ou du Wi-Fi dans certains hôtels, établissements et autres. Donc, faites regarder dans les show notes le lien. C'est assez intéressant et évidemment, ça va apparaître partout dans les tests de Wi-Fi, les pen tests où on va retrouver des routeurs. Ça risque d'être un jouet aimé du côté offensive et en même temps, ben, personne n'est content que la NSA ait gardé ça encore une fois de leur côté sans le dire à personne. Yep.
T'as-tu eu la chance de jouer avec, Pat?
Non, j'ai juste regardé un peu le type de routeur qu'ils utilisaient, en fait. Ça touchait vraiment à toutes les gammes. Là. Puis c'est un peu ça qui était intéressant, terrifiant et chiant pour la plupart du
monde. Fait que Cisco existait jusqu'à Ubiquiti, jusqu'à... Il y a des marques qui m'échappent. Fait que c'est vraiment large à ce point-là, hein.
Ouais, exact. J'ai pas la liste exacte, mais tu sais, t'as du WRT-54, Belkin, Linksys. Ça, c'est juste un aperçu, dans le fond, de la liste. Ça touche à des tonnes et des tonnes de routeurs. Puis, c'est vraiment le concept de Metasploit. Clic, boom, accès direct dedans.
À la NSA, là, avec le Shadow Broker.
Oui, avec leur outil... Exact, leur outil.
Qui est vraiment... Qui est net. Qui est tel... Il va bien, mais il est net.
Ouais, ouais. C'est en Windows, hein.
C'est pas étant pareil. Non, je veux dire, j'aurais pu un peu se forcer, les mettre un peu plus flashy, là, mais bon.
Ouais. Mais il n'y avait pas dans l'intention de releaser ça pour le grand public, je pense.
Ouais, non, il y a ça.
Yep, exact.
Non, mais c'est pour usage interne quand même, mais... À la défense de la NSA, ils ont fait quand même beaucoup de contrôle qualité sur leur code, là. Ce qu'on retrouve pas généralement dans les codes qu'on retrouve malicieux sur Internet.
Oui, exact.
Puis les codes de développement, les jets aussi.
Oui, mais leur exploit a été testé pour qu'elle marche dans toutes les situations avec du fallback et non pas genre voilà un exploit, puis il faut que tu le débugues pendant 2 jours parce que le code fourni marche pas. Eux, tous avaient un fallback puis du code justement testé dans toute situation. Ce qui était du exploit professionnel, quand même intéressant.
Ah, c'était super.
Exact. Relié à ça, on a Microsoft qui a encore releasé des mises à jour de Windows XP parce que les exploits de SMB qui sont sortis récemment font la terreur sur le web. Il y a beaucoup, beaucoup de malware et d'exploits au niveau là, plus criminel, vraiment du monde qui essaie d'hacker des entreprises, qui utilisent ça non-stop. Donc, Microsoft continue à sortir des patchs. On espère que ça va aider nos amis qui font de l'IoT médical et autres, mais pas facile à gérer ce côté-là.
Ah, oh, mais là, ça a le mauvais côté que il y a des gens qui vont juste garder Windows XP étant donné que, ah, oh, quand il y a quelque chose de vraiment mauvais, je reçois une patch. Ils devraient arrêter de
ça. Ouais, ouais, exact.
C'est
à deux tranchants, mais en même temps, tu sais, du côté mise à jour, c'est très dur à faire. Puis de l'autre côté, ben, ils sont obligés de le faire pour supporter la sécurité.
Mais ultimement, on est pris avec un problème que les gens ont déployé des XP de façon massive, puis peut-être même un peu trop massive, puis là, on est comme, c'est comme du embedded, là. On a le même problème que les caméras avec des firmware complètement désuets, mais XP représente le même genre de, d'éléments-là, fait que c'est comme weird, mais Microsoft est comme coincé entre deux places dures à ce moment-là.
Ça veut dire le déploiement massif XP était super bon aussi. Là. Je veux dire, c'est normal qu'il soit, qu'à l'époque, ce soit déployé partout, puis à la quantité qu'il était. Mais ça, c'est juste mon avis.
Oui, mais le problème, c'est plus pas juste massif parc informatique, c'est massif dans tout ce qui est hors d'un parc informatique. Puis le méga-bug est là, puis... Quand on lit Twitter, puis même beaucoup de posts sur LinkedIn, « Ah, vous aviez juste à patcher, c'est votre faute, et blablabla. » OK, fine, mais essaye de patcher 100 000 machines qui sont déconnectées du web puis qui sont reliées à des patients dans des hôpitaux. C'est presque impossible. Ça se fait, mais je veux dire, tu fais pas ça, un déploiement de mise à jour mensuelle en 24 heures. Là. C'est l'impact est zéro pareil. Mais ce discours-là, revient encore, mais le bug n'est pas là. On revient toujours au concept de tant qu'on reste dans un mode de patching, on n'est pas en mode de sécurité, on est en mode de rattrapage, puis il ne se passera rien. Tant que les systèmes sont 100% broken by design, ben c'est ça que ça donne. Mais là, c'est broken by design parce qu'en plus, ça fait 10 ans ou 15 ans que ces logiciels-là n'ont jamais été mis à jour. Là. Fait que c'est comme un gros bordel.
Puis il y a des patchs préparés qui continuent à sortir. C'est assez grave. Microsoft va patcher Windows XP.
C'est pour sauver des vies hein, qu'ils font les patchs.
Oui, non, je sais, mais je suis en train de.
Je suis d'accord avec toi. T'as raison que certains vont se dire que c'est pas grave. Hein, ils nous sortent des patchs encore.
Mais c'est très difficile de pouvoir convaincre ces institutions, surtout le médical, comme on a vu avec WannaCry, ça a touché beaucoup la Grande-Bretagne parce qu'ils ont énormément d'équipements médicaux qui doivent avoir des XP cachés en dessous. Ces institutions ne veulent même pas savoir qu'il y a des XP cachés en dessous, puis là, ils sont comme pris au dépourvu. Puis ensuite, comment on va patcher une machine qui a coûté 1 million, puis là, le fournisseur qui n'est pas Microsoft dans ce cas-ci, c'est un autre qui a utilisé un XP embedded qui est rendu désuet maintenant, d'essayer de convaincre de le mettre à jour vers quelque chose de neuf, le problème est là, tu sais, c'est une grande chaîne de gens, puis Microsoft est comme pris avec le fait qu'on a surutilisé son système d'exploitation à des fins qui n'étaient peut-être pas prévues pour ça. Puis le fait qu'il y a d'un côté corporatif mis en désuétude XP, ce qui est une très bonne chose, mais quand on arrive dans le côté embedded, on peut pas calculer la désuétude de la même façon que dans une compagnie. On peut pas, par exemple, mettre un Windows 7 sur un scanner médical. Là. C'est pas la même chose.
Oui, puis l'affaire, c'est que Windows XP, puis 2000, 2003, peu importe, c'est un workstation qui est utilisé à des fins avancées embedded. Ils n'ont pas utilisé les versions embedded ou whatever autre système qui existe, comme dans les voitures ou autres avec certains systèmes Linux qui sont dédiés à ça. Fait que tu te ramasses 10 ans plus tard avec une tonne de problèmes de ce type-là. Mais...
Espérons que la même chose n'arrivera pas dans une dizaine, quinzaine d'années quand tout va avoir Windows 10.
Ah, mais là, c'est ça, le concept va se mettre en Windows 10. Tout le monde va être safe. Dans 10 ans, ils vont trouver un exploit semblable. On va recommencer. Hey! Ah, la roue de l'infosec.
Mais c'est ce qu'on appelle le long tail, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont beaucoup plus loin que ce qui a été prévu initialement lors de leur release, leur diffusion au grand public.
Exact. Et si on continue dans le même sujet, il est sorti le Samba Cry, terrible nom, mais c'est ça qui est utilisé. Vulnérabilité Linux Samba, qui, dans le fond, Samba 1, 2, avec un bug que quand tu uploads un certain fichier de type DLL ou SO en Linux, il y a un moyen de le caler pour exécuter du code à distance. Donc, le SambaCry n'est pas autant que le WannaCry, dans le sens que c'est pas répandu autant, mais il y a énormément d'attaques qui se font présentement sur le web avec ça. Pour justement, toutes les machines qui ont des shares, mais qui sont en Linux, ben ils vont faire soit du malware d'encryption ou soit voler les données du RCE, etc. Fait qu'on se retrouve dans le même problème en Linux.
Non, il n'y a pas un OS qui est plus sécure que l'autre.
Non, non, exact.
Ah oui, il fait que SambaCry, WannaCry. Okay. Ça, j'imagine que ça affecte tous les IoT devices qui auraient un share disponible.
Qui aurait du SMB, exact.
Pour moi, ça élimine le...
L'impact est sûrement plus petit, mais ça reste le même.
Pour moi, ça élimine la brosse à dents de l'IoT. Je pense pas qu'il y a un share sur celle-là.
Ah, tout à fait.
Ça, c'est
ça. Yes, sir, je l'ai pas encore acheté.
On va savoir comment tu te brosses les dents bientôt.
Je pense que tu avais l'acheter juste pour le fun, non? Tu vois, qu'est-ce que ça donne?
Tu vas pouvoir embarquer dans le projet de Renderman et faire ça à place pour les
grosses dents. Oui, il faudrait que je m'embarque là-dedans. Pour exactement les raisons que tu penses, pour la recherche.
Il y aura le lien dans le chat. Sacré Steven.
Hey, quoi, c'est...
Dans nos prochaines nouvelles, nouvelles internationales, on a Pirate Bay, en fait, qui a été déclaré coupable tout au long de la ligne à voir. C'est dommage, mais on est rendu là. En même temps, je pense pas que ce soit la solution. Mais l'Europe a décidé de demander à tous les service providers d'Internet de bloquer les sites de torrent de Pirate Bay. Ça donnera rien, mais c'est un mauvaise cause pour la cour qui va pouvoir être utilisée. C'est surtout pour ça, je pense, que ça a été fait là, au final. Mais c'est ça.
Ben, je sais quoi d'autre, quelle autre option qu'il y aurait. Je sais qu'on le sait tous, là, ça n'arrêtera pas de continuer à fonctionner. Mais...
Ben, exact. Puis, c'est un peu le concept qu'on a au Québec, là, d'essayer de forcer la musique locale avec des taxes et autres. Tant que tu fournis pas quelque chose que le monde veut puis qu'ils vont accepter de payer, c'est ton modèle qui est pas bon, généralement. Mais bon. Je pense pas que ça va empêcher bien du monde d'aller sur Pirate Bay. Ils vont ouvrir un autre torrent juste à côté avec le même film. C'est ça qui va arriver éventuellement et le faire. Exact.
Ouais, ça va pousser les gens
à aller internationale. Ouais, exact. Non, mais ça s'appelle Netflix, si on s'entend à 10$ par mois. C'est ce concept-là.
Non, mais des private torrent trackers à 10$ par mois, puis.
Ouais, ouais, mais c'est sûr.
C'est quand même assez fiable.
Ça va sortir à un moment donné. Je veux dire, il y a du subscription pour faire tant par mois pour des malwares, des command and control. Tu charges un montant, un certain montant, puis tu partages les profits avec le gars qui t'a réalisé ton malware. Il t'offre les DNS, il t'offre tous les kits pour faire du malware. Puis tu le payes un petit montant par mois. Ouais, ça existe déjà. Fait qu'imagine là-dessus. Parce que, ouais, c'est ça, la prochaine nouvelle, on n'en a pas tant entendu parler, mais le concept, ce que la personne a fait, est un peu intéressant. Un gars de 25 ans qui est arrêté, en fait, qui a même plaidé coupable d'avoir piraté les satellites militaires, les satellites des systèmes téléphoniques militaires US. Donc, il a eu accès à ça. Il s'est fait pogner. Et c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire officiellement, mais c'est vraiment rare là, qu'on voit au niveau satellite des choses qui arrivent. C'est un domaine qui est très, très peu regardé. Mais que... Quand on trouve quelques tutoriels ou autres reliés à ça, c'est vraiment simple d'aller voir, analyser ce qui se passe sur ces machines-là. Donc, vous regarderez les show notes pour voir le détail exact.
C'est intéressant, ça.
Yes. Ça serait même peut-être même intéressant de voir qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là pour faire un mini section discussion relié à ça. Sinon, dans nos nouvelles locales, rien d'intéressant, c'est un peu pour rire en fait de nos super médias locaux. On a eu deux articles cette semaine qui nous ont fait bien rire. Le premier étant que les banques du Canada pourraient être vulnérables à des attaques informatiques. Ils nous ont mis un article comme ça, front page, online. Je suis comme bienvenue en 2000, j'ai aucune idée pourquoi qu'on est encore là. Je pensais que c'était un cas unique, mais trois jours après, le même journal a décidé de dire que les partis politiques du Canada étaient vulnérables à des attaques. Je suis comme, waouh, vraiment? Ben, je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Hey, pour vrai, l'Internet serait ainsi, puis les pirates aussi.
Non, puis moi, je pensais que t'allais parler de Mafia Wife.
Ah non, non, ça c'est un sujet que je ne peux discuter. Mais qui est aussi drôle, en fait.
J'ai l'impression que tu vas faire un bip sur le montage. Ah. OK.
Yes, Nick, t'es pas capable de parler, c'est ça que tu me dis? Nice. Je vais te prêter mon micro. Donc, tu avais juste une petite section sur Little Snitch, un mini update. Je vais essayer de te passer le micro sans tout péter.
Sans tout briser. Ouais, pour faire un peu de pause sur le fait qu'on a fait un segment technique qui parlait de Little Snitch. La version 4 vient de sortir en bêta 1. Cette version-là est en beaucoup plus facile d'utilisation pour le grand public avec des tutoriels qui suivent, des explications et comment le fonctionnement d'autorisation et de comment débloquer les différents sites et comment ça fonctionne. Il ajoute certains goodies visuels davantage, une carte qui montre les sites dans lesquels ils sont accédés, qui montre comment les choses fonctionnent, mais tranquillement, on est en train de mettre dans les mains du grand public des outils qui sont beaucoup plus faciles pour comprendre comment les choses fonctionnent. Là. C'est pas mal ça.
Oh, nice. Déjà que le Little Snitch n'était pas nécessairement facile à utiliser d'avance.
Oui,
Je m'en suis servi, mais...
Oui, puis il y a plusieurs versions qui sortent. Comme la dernière fois, on disait qu'il y avait une version encore très, très bêta pour Linux qui a été sortie. On va sûrement voir ça sortir pour Windows prochainement. Donc, c'est quand même intéressant là-dessus. Là.
Non, ça fait du bien, ça.
Exact. Donc, ça fait pas mal le tour de nos nouvelles. Est-ce que tu avais quelque chose de ton côté, Steven?
Ben, ce mois-ci, ou cette semaine, appelle ça comme tu veux, j'ai deux petits liens le fun pour les personnes qui sont intéressées à soit au Forensics ou Windows Kernel Exploitation. Fait que je vais donner les liens tantôt. Il y en a un, c'est pour le Forensics, c'est LMG Network Forensics Puzzle Contest. Bon, c'est pas récent dans le sens que c'est pas ça fait pas deux semaines que c'est sorti, mais ça fait pas 10 ans non plus. Fait que le site en tant que tel a une bonne dizaine de puzzles au niveau de Forensics. Ça part assez basic. T'as un P4, puis il faut que tu cherches certains trucs en particulier. T'as une petite mise en situation au début. Puis ça va jusqu'à une image complète. Puis encore là, t'as une mise en situation, puis il faut que tu joues le Forensics Guy.
Cool.
Puis, oh non, c'est bien. J'avoue, j'ai commencé avec le premier, c'est super le fun. Puis l'autre, ça
va pas jamais. C'est en fait ou.
Moi, étant pas en forensics, je pourrais pas dire avec certitude oui ou non, mais la personne qui m'a référé à ce site-là me dit que c'est une très bonne ressource si quelqu'un veut commencer à apprendre le forensics. Fait que je vais.
Excellent.
C'est
un sujet que personne ne parle officiellement, fait que c'est ça qui est. C'est cool d'avoir cette ressource-là.
Mais jusqu'à date, j'ai bien aimé le premier puzzle. Fait que j'espère de continuer avec ça. Puis l'autre site, je vais essayer de donner le nom comme il faut, là, c'est Hazarezadiz 1001 Nights blog. Puis il part sur une gauchère de comment comment c'était un lab pour du Windows Kernel Exploitation. Il va de quoi installer ou c'est downloader. Il y a même quelques petites vidéos sur YouTube linkées pour te montrer comment le setter, puis etc. Parce que du Windows Kernel Debugging, c'est pas toujours la chose la plus facile au monde à faire. Puis, ben, comme je disais, bien des vidéos, bien des links, bien des screenshots, puis c'est assez long son blog post. Une couple de parties. Fait qu'en théorie, ces liens-là vont être dans le show notes.
Excellent. Puis en termes de nouvelles presque confirmées, en fait, on devrait avoir une formation de Forensic au ACFEST cette année. On attend la confirmation d'ici une semaine. Donc, sujet très peu discuté, même dans les DEFCON de ce monde, ACFEST et autres. Donc, on essaye d'avoir, de pousser une ou deux formations. Cette année, on a un CTF, sûrement une formation, et on essaie d'avoir des talks aussi, donc intéressant là-dessus. Puis, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'attaques, donc le forensic est de plus en plus utile.
Donc, enfin, que j'espère que ça va être utile à quelqu'un, ça.
Exact. Donc, dans nos shameless plugs pour ce mois-ci, un mini retour sur l'IAC. En fait, l'IAC, cette année, on a décidé de le pousser en version franchise. Donc, on a fait IAC Québec, Toronto, Ottawa, Sherbrooke, Montréal et Cali-Colombie dans le sud de l'Amérique dans l'Amérique du Sud. Donc, très intéressant. On a eu plus ou moins 300 personnes qui ont participé au CTF et environ 600 personnes répandues dans tous les IAC pour des conférences. Donc, le concept était que chaque ville avait sa conférence de jour et participait au CTF centralisé le soir. Donc, si vous êtes intéressé puis vous entendez ça et que vous êtes dans une des villes que je n'ai pas nommées, l'année prochaine, on cherche à avoir plus de villes. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire. Aussi, les inscriptions du ACFEST vont être disponibles présentement à la sortie de ce podcast-là. Quelques formations aussi. Et dernière nouvelle, on a créé en fait à Québec, on avait des rencontres mensuelles, mais on a changé un petit peu le format pour québecsec.ca, qui est une rencontre de sécurité mensuelle, mais pour tout le monde, pas juste pour le monde en hacking sécurité. On veut rejoindre de plus en plus les développeurs et autres pour passer la bonne nouvelle de la sécurité. Donc, il y a un call for paper dessus, on cherche du monde. Donc, si vous êtes dans la région de Québec ou pas trop loin, et que vous voulez donner une conférence entre 15 minutes et 2 heures, même si c'est votre première fois, là, aucun problème, on offre la voix à tous, tant que c'est pas un sales pitch, tout est disponible. Donc, ça fait le tour des shameless plugs, et le tour de la 7e émission de la French Connection. Donc, merci Steven.
Ah, ben c'est moi qui vous remercie.
Yes, et on se reparle bientôt. Merci Nick.
Salut!
Awesome, son micro marche. Et on se reparle dans quelques semaines. Merci tout le monde, salut!